Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche de la Quinquagésime, 50 jours avant Pâques. Et l'Église a choisi pour notre méditation de ce jour saint une plus belle page de Saint Paul, on dit même la plus belle page écrite par Saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens, chapitre 13. On appelle l'hymne à la charité. Et Saint Paul nous explique une chose qu'on sait en principe, mais qu'on oublie beaucoup trop. Il explique que des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, c'est que la foi nous est donnée pour croire, l'espérance pour prier, la charité pour obéir à la loi du bon Dieu. La plus grande, c'est la charité. Et il nous explique que si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Or, qu'est-ce que c'est que la charité? Il faut répéter tout le temps ces choses pour qu'elles rentrent dans les esprits de nos fidèles. La charité, c'est l'état de grâce. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Je me rappelle les sermons de Mgr Lefebvre qui étaient magnifiques sur le sujet. Il nous disait tout le temps, mais simplifiez la définition de la charité. On donne toujours des tas de définitions extrêmement compliquées de la vertu de charité. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Un homme qui est dans l'état de charité, c'est un homme qui a dans son cœur, dans son âme, un bout de paradis, rien que ça. Mais Saint Paul explique bien, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis comme un airain qui sonne, une cymbale qui retentit. Quand même j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand bien j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc il le dit bien. Si j'ai la foi, mais je n'ai pas la charité pour alimenter la foi, ma foi est informe. Elle est moribonde. Quand bien même je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Même si je donne tout mon argent pour nourrir les pauvres, même si je donne mon corps pour être brûlé pour les autres, pour sauver les autres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, elle n'agit point avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, la charité ne finira jamais. Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande est la charité. Donc c'est la question, mes bien chers frères, qu'il faut se poser tous les matins, tous les soirs. Pendant notre prière du matin, première chose qu'il faut vérifier, est-ce que j'ai la charité en moi? Dire, est-ce que je suis en état de grâce? Ah mais j'ai envoyé un gros don pour aider ma chapelle. Est-ce que vous avez la charité? Ah mais j'ai aidé 3 ou 4 pauvres dans la rue. Est-ce que vous avez la charité? Ah mais j'ai fait des tas de choses pour le bon Dieu. Est-ce que vous avez la charité? Je connais des gens comme ça. Vous en connaissez aussi. Ils courent les rues. Des gens qui font peut-être des tas de bonnes choses extraordinaires. Des médecins qui vont beaucoup beaucoup faire pour les pauvres. Des infirmières qui vont agir de façon extraordinaire, de façon charitable, avec une charité naturelle. La charité dont parle Saint Paul, attention, c'est la vertu théologale de charité. Encore une fois, la charité, ça consiste pas à faire passer et à aider les vieilles grand-mères à passer au passage coudé sans se faire écraser par les voitures. C'est pas ça la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour du bon Dieu. La charité surnaturelle, c'est aimer Dieu et faire aimer Dieu aux autres. C'est le premier commandement, la charité. Aimer le bon Dieu de tout son cœur, toute son âme et toutes ses forces, et aimer le prochain pour l'amour du bon Dieu. Donc vous avez un enfant qui vit dans le concubinage jusqu'au cou, la charité c'est quoi? C'est tout faire pour qu'il sorte du concubinage. Ah mais je suis gentil, doux et suave avec lui, il vient avec sa femme et je les reçois tous les deux comme s'ils étaient mariés. Mais c'est pas de la charité ça, c'est de l'assassinat pur et simple. Vous assassinez son âme puisque vous le confortez dans son péché. La charité, c'est aider le prochain à sortir du péché. Et comme on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, avant d'aider le prochain à sortir du péché, il faut peut-être commencer par sortir du péché soi-même. Le problème, mes bien chers frères, c'est qu'on est aveugle. Et c'est pour ça que l'Église a choisi en ce même jour, dimanche de la Quinquagésime, comme évangile, Saint Luc chapitre 18, versets 31 à 43, l'histoire de la guérison d'un aveugle. Un aveugle qui était assis au bord du chemin, qui demande l'aumône. Alors il entend la foule qui passe, il demande ce qui se passe. Alors on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Tout de suite il se lève et il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient en avant le reprenaient rudement en disant, mais vous gênez tout le monde, arrêtez de crier, faites du bruit. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus s'approche. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Que j'ouvre mes yeux, que j'ouvre les yeux de mon âme. Et Jésus lui dit, vois, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il vit et il marchait à sa suite magnifiant Dieu. Et tout le peuple voyant cela rendit gloire à Dieu. Eh bien, cet aveugle qui se met à voir, c'est quoi? C'est celui qui vit sans la charité, qui retrouve la charité, qui retrouve l'état de grâce. Lorsque je suis en état de péché mortel, je suis aveugle, je vois rien. J'ai une cécité intellectuelle, une cécité morale, une cécité spirituelle qui m'empêche de voir Dieu. Quand je sais m'agenouiller, dire au bon Dieu, dire à son prêtre, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché, je retrouve l'état de grâce. Et donc je retrouve la vue. Oui, mais bien cher frère, il faut comprendre ça. Notre nature humaine est composée de deux choses, un corps et une âme. Ne craignez pas ceux, me dit notre Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent faire du mal au corps. Craignez ceux qui peuvent faire du mal à l'âme. Le problème, c'est que la plupart des hommes s'occupent de leur corps et oublient complètement qu'ils ont une âme. Alors, je voudrais appliquer ce que je viens de vous dire, qui est du bon sens élémentaire, et qu'on oublie beaucoup trop. Un phénomène dont tout le monde parle en ce moment, le phénomène des gilets jaunes. Bon, il faut avouer qu'il y a dans le phénomène des gilets jaunes quelques petites choses bien sympathiques. Bon, c'est la France profonde qui se réveille un peu, et c'est la vraie et véritable France, la France à laquelle vous et moi nous appartenons, qui se bouge un petit peu, de haut grand science. Et une autre chose qui est bien sympathique, c'est le fait que cette espèce de jacquerie, si vous voulez, j'aime pas utiliser le mot révolution, cette jacquerie, dans le bon sens du terme, est faite sans les syndicats complètement politisés et complètement pourris d'aujourd'hui. Ça, c'est un bon signe. Mais il me semble que tous ces braves gens qui manifestent pour les gilets jaunes le font pour une raison purement matérielle. Ils veulent, c'est ce qu'ils disent en général dans toutes les interviews que j'ai entendues, ils disent, nous voulons sauver notre pouvoir d'achat. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais de chercher à sauver son pouvoir d'achat? Bien sûr que non, c'est une bonne chose. C'est normal que des gens qui ont charge d'âme, qui ont charge d'enfants et de famille, cherchent à sauver leur pouvoir d'achat. Mais il faudrait peut-être que ces mêmes personnes qui manifestent sous l'étiquette des gilets jaunes se rendent compte que la France est d'abord malade dans son âme. La France, analogiquement, si vous voulez, est comme un corps, est comme une nature humaine. Dans la nature humaine, il y a un corps et une âme. La chose importante, c'est l'âme qui doit contrôler le corps et pas l'inverse. Parce que l'âme est immortelle alors que le corps est mortel. De la même façon, dans notre pauvre pays de France, il y a littéralement une âme et un corps. C'est le maréchal Pétain qui avait dit dans un sermon, dans un discours fameux, la France est malade dans son âme. Il avait dit ça au début de la Deuxième Guerre mondiale, si mes souvenirs sont exacts. Il avait bien raison. Est-ce que je suis convaincu que la France est malade dans son âme? Est-ce que je suis convaincu que avant de chercher à sauver mon devoir mon pouvoir d'achat, je dois aussi sauver mon âme. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gilets jaunes, ils s'occupent que des choses matérielles, de leur pouvoir d'achat, et pas une seule seconde, ils pensent aussi aux causes qui ont provoqué ces effets qui sont en train de détruire notre pays. Si vous voulez détruire les effets, il faudrait peut-être remonter aux causes. Et si vous ne supprimez pas les causes, vous ne pouvez pas supprimer les effets. Ça sert à quoi d'essayer de sauver son pouvoir d'achat si on garde les causes qui ont provoqué la dégringolade de notre pouvoir d'achat? Vous voyez, je pense que c'est quelque chose de très important, à mon avis. On peut appliquer tout à fait l'épître d'aujourd'hui et l'évangile d'aujourd'hui à ce que je viens de vous dire sous les gilets jaunes. Pourquoi? Saint Paul nous explique dans l'épître aux Corinthiens que le plus important, c'est la charité. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je ne suis pas en état de grâce, je ne suis rien. Et l'évangile nous dit que nous sommes des aveugles, qu'il faut savoir aller au Christ pour demander d'être guéri, d'ouvrir les yeux. Donc, si je veux retrouver mon pouvoir d'achat, c'est très bien, mais il faut d'abord aussi remonter aux causes. Les causes de l'effondrement moral en France, c'est quoi? C'est le rejet de Dieu. Le drame de la République française, c'est pas qu'elle soit une république, parce que en soi, la République n'a jamais été condamnée par l'Église. Le principe républicain n'a jamais été condamné par l'Église. Et un de mes héros politiques, c'est Gabriel de Garcia Moreno, le président de l'Équateur, qui était président d'une république, qui a été assassiné en 1875 par les francs-maçons en Amérique du Sud. Donc, c'est pas la République qui est condamnée. Ce qui est condamné par contre par l'Église, c'est le laïcisme de la République. Qu'est-ce que ça veut dire une république laïque? Une république laïque, c'est une république qui essaye de survivre sans Dieu. La quadrature du cercle, ce serait plus facile à réaliser. Une république laïque, c'est une république qui, en soi, veut d'abord sauvegarder les principes de la Révolution française. Et ça aussi, c'est condamné par l'Église. L'Église a condamné les principes de la Révolution française, vous n'aurez peut-être pas oublié. Les principes de liberté, d'égalité, de fraternité qui viennent de la franc-maçonnerie. C'était créé par les francs-maçons en 1717. C'est ça les principes qui provoquent la mort de la France. Donc il y a deux choses qui provoquent notre mort. Les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité, de fraternité. Et deuxième principe, qui sont d'ailleurs le corollaire du premier principe. Le deuxième principe qui tue notre pays, c'est le laïcisme. Et donc, tant que je ne veux pas rejeter ces faux principes, il y aura toujours les effets, il y aura toujours les conséquences. Quand je vois des gens qui manifestent pour essayer de sauver le pouvoir d'achat et qui nous disent la première des choses que nous voulons, c'est sauvegarder les principes de la Révolution française, j'éclate de rire, littéralement, ou je me mets à pleurer. Parce que ces gens-là n'ont rien compris. Ces gens n'ont pas compris, la plupart de ces gens, je ne dis pas que tous les gilets jaunes sont comme ça, je pense qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent un peu parmi les gilets jaunes, Dieu merci, mais je pense que la plupart des gilets jaunes, l'immense majorité d'entre eux, n'ont pas compris, malgré leur bonne volonté qui était évidente, que la révolution est d'abord et essentiellement antichrétienne, précisément parce que cette révolution qui se manifeste par les principes maçonniques en France de liberté, d'égalité et de fraternité, cette révolution est d'abord une révolution laïque anti-Dieu pour empêcher le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre pays. Donc, puisque notre révolution, la révolution de 1789, est une révolution essentiellement, substantiellement, dans son essence même antichrétienne, il n'y a pas de contre-révolution possible sans justement remettre Dieu au milieu de notre action. C'est ça le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que nous demande d'enseigner et de faire, nous demande que l'Église nous demande. Sauver le pays par un retour aux principes catholiques. Et si je continue d'enseigner les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité, de fraternité, si je continue de défendre le laïcisme français, si je continue de défendre les principes mêmes de la Révolution, je me coupe l'herbe sous les pieds, je scie la branche sur laquelle j'essaie de monter mon nid. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc il faudrait peut-être commencer par être un véritable contre-révolutionnaire. Et quelle est la première condition pour être un véritable contre-révolutionnaire? Puisque la révolution est essentiellement, substantiellement, dans son essence même antichrétienne, la première condition pour être un contre-révolutionnaire, c'est d'être en état de grâce, pardi. C'est l'épître de Saint Paul. Si je n'ai pas la charité c'est l'état de grâce, je ne suis rien. Quand bien même je parlerai toutes les langues des hommes, et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit. Quand bien même je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Quels sont les gilets jaunes qui ont compris ces choses-là? Alors, si des gilets jaunes qui n'ont pas compris ces choses-là se plaignent du fait qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat, ils se plaignent pour rien. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord revenir aux saintes pratiques de la loi naturelle et aussi de la loi surnaturelle. Rappelez-vous ce qu'a fait Sainte Jeanne d'Arc quand elle est arrivée à Orléans. Première chose qu'elle a demandé, alors que l'armée française est en pleine décomposition, elle a exigé que tous les soldats de l'armée se confessent et communient. Voilà ce qu'elle a demandé. La troisième chose qu'elle a demandé, c'est qu'elle a exigé que les ribaudes, comme on les appelait à l'époque, les filles de mauvaise vie qui étaient dans le camp, quittent le camp. Et elle a obtenu la victoire à Orléans uniquement lorsque toutes les ribaudes sont parties, ont quitté le camp, et après que tous les soldats, les hommes du rang et les officiers, tous se sont confessés et communiés. Alors, elle a remporté la victoire. Donc la France est malade dans son âme, précisément parce que les soldats de l'armée, l'armée française, si vous voulez, dans le sens spirituel du terme, parce que nos soldats ne sont pas, en général, en état de grâce. Donc, on a devant nous des gens qui veulent sauver les corps, mais qui ne se préoccupent pas de l'âme. Le problème, c'est qu'un corps sans âme, ça s'appelle un cadavre. Dans les cimetières, il y a plein de corps sans âme. Ils ne peuvent plus bouger, ils sont morts. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, sauver le pouvoir d'achat, c'est une très bonne chose, mais peut-être penser à ramener l'église, la France dans le giron de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais c'est impossible d'expliquer ces choses-là dans le monde moderne, parce que la Révolution française est passée et les esprits modernes ont été contaminés à un tel degré par les principes de la Révolution française que ces choses-là ne peuvent plus être expliquées au monde moderne. Alors, si c'est le cas, mes bien chers amis, la France est morte. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de facultatif. Je suis la voie, la vérité et la vie, a-t-il dit. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, il faut faire de la politique à ce moment-là, et par la politique, par les élections, arriver à ramener notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyons, c'est pas par les principes démocratiques qui sont les mêmes principes que les principes de la Révolution, vous allez obtenir quoi que ce soit, voyons. La démocratie, c'est quoi? C'est le droit du nombre. C'est la loi du nombre. C'est pas le droit du peuple, c'est le droit du nombre. Donc c'est le nombre qui fait la vérité. Depuis quand la vérité dépend-elle du nombre? La vérité ne dépend pas du nombre. La vérité existe par elle-même. Objectivement parlant, la vérité existe. Le nombre n'a rien à faire avec ça. Vous pouvez avoir 99% des Français qui sont pour l'avortement, ça ne veut pas dire que l'avortement devient quelque chose de bon pour autant. Et même si c'est 15% des Français qui sont contre l'avortement, ce 1% des Français qui sont contre l'avortement, c'est eux qui représentent le vrai, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, tu ne tueras pas. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Comprendre que la France est malade dans son âme et que nous, en tant que Français, nous sommes aussi malades dans notre âme si nous n'avons pas compris qu'il faut d'abord retrouver la vertu de charité. Il faut d'abord retrouver l'état de grâce. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'arriverons jamais à supprimer les faux principes de la Révolution. Allons aux causes. Tant que les causes demeurent, encore une fois, les effets demeureront, ce qu'on appelle le premier principe de causalité. La grâce ne détruit pas la nature. Malheureusement, mes bien chers frères, encore une fois, nous sommes des aveugles. Nous sommes comme cet aveugle qui est au bord du chemin. Et pour être guéri, qu'est-ce qu'il doit faire? Il entend dire que notre Seigneur Jésus-Christ passe à côté de lui et se lève tout de suite et se met à crier « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» Et quand les gens autour cherchent à le faire taire, il continue de crier pour appeler notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il a appelé notre Seigneur Jésus-Christ que notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'attend que ça, il veut être appelé. Il veut être réveillé dans la barque quand il dort, alors que la tempête se déchaîne autour de la barque. Notre Seigneur Jésus-Christ attend d'être appelé par l'aveugle, et lorsqu'il est appelé, il arrive, et à ce moment-là, il demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je vois. Et notre Seigneur Jésus-Christ fait le miracle, vois, ta foi t'a sauvé. Eh bien, chers frères, il nous faut prier pour que tous ces braves gens, les gilets jaunes, puissent comprendre ces choses-là. Voyez, si on essaie encore une fois de lutter contre les conséquences d'une catastrophe, mais qu'on ne vient pas à la source même de la catastrophe, on perd son temps. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider, au moins pour nous, catholiques, que nous comprenions ces choses-là, parce que malheureusement, ce que je vous dis, en prenant l'exemple des gilets jaunes, que j'aime bien, ils sont bien sympathiques ces gilets jaunes. Bon, et ces gilets jaunes, et encore une fois, ils sont pleins de bonne volonté, mais le drame, c'est que même parfois parmi les catholiques pratiquants, beaucoup n'ont pas compris ça. Alors ils manifestent, et puis quand je leur pose la question, mais votre dernière confession, elle remonte à quand, monsieur? Oh, ben ça n'a rien à voir avec ça, bien sûr que ça a à voir. Vous luttez contre une révolution anticatholique, et vous voulez lutter contre une révolution anticatholique sans notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous perdez votre temps. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça, malheureusement, que je crains que cette bonne révolte des gilets jaunes aille droit dans le mur, n'aboutisse à rien du tout, parce que précisément, on a oublié l'essentiel, que la France est malade dans son âme, et que les Français sont malades dans leurs âmes, et que la plupart des gilets jaunes sont malades dans leurs âmes. Combien de gilets jaunes dans une manifestation de 10 000 personnes? Combien de gilets jaunes sont en état de grâce? Rappelez-vous cette jeune dame, encore une fois, que tous les soldats de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ soient en état de grâce. Alors, le maître donnera la victoire. À combien sont en état de grâce? 10? 15? 20? Sur 10 000? Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie. Elle a le pouvoir sur le cœur de Dieu. Parce qu'il y a une relation directe entre le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme la très sainte Vierge Marie, elle a une relation directe avec notre Seigneur Jésus-Christ, passons par elle. Qu'elle nous mette dans notre cœur, qu'elle mette dans notre cœur justement un grand, grand désir de cette vertu de charité. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Les trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. La plus grande, c'est la charité. Et si j'ai compris cela, alors je peux travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que ce genre de sermon ne plaît pas à beaucoup de personnes. C'est la belle fête de la politique. Eh bien, c'est la politique de Dieu. C'est la politique de l'Église catholique. C'est la politique qu'on a, le système politique qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul pouvoir politique auquel je crois. Je ne crois pas à la République française. Je ne crois pas à la démocratie. Je ne crois pas aux principes maçonniques. Mais je crois au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ n'existe pas, alors c'est le règne du démon qui nous tombera dessus et qui nous est déjà tombé dessus. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces, qu'elle obtienne la grâce d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos âmes, pour que nous puissions voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de facultatif, mais d'absolument nécessaire pour notre survie spirituelle et notre montée au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.